Radio Primitive.
L'alternative.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Notre émission de ce soir se fera en deux parties. Donc, la première, 25 minutes, sur nos commentaires sur les élections, le deuxième tour. Et la deuxième partie, ça sera sur la suite de la semaine dernière, sur le Soudan. Donc, c'est reparti pour la Macronie pour 5 ans. voilà, quoi. Si ce n'est qu'il y a quand même des enseignements à en tirer, il y a quand même eu... De fait, pour que les gens aillent voter, la grosse artillerie, hein, au niveau médiatique surtout, des journaux comme Le Canard Enchaîné, Le Monde, Mediapart, sont montés au créneau pour que les gens aillent voter. Macron, hein, voilà, de toute façon, le slogan « Pas une voix pour Le Pen », ça pouvait signifier ça aussi, à part qu'effectivement, on pouvait faire blanc, on pouvait faire un blanc ou on pouvait faire... un vote nul. Alors bon, c'est sûr que bon, je vais simplement comparer avec le premier tour. Après, je laisserai ma parole à mon camarade. Au niveau de la participation, il y a eu donc 28% d'abstention. Il y a eu 3 millions d'électeurs en moins aux urnes. Hein, 3 millions d'électeurs en moins. Au niveau du vote blanc, alors le vote blanc est passé de 543 000 au premier tour à 2 228 000. Au second, ce qui est important tout de même. Hein. Et le vote nul est passé de 247 000 au premier tour à 790 000 au deuxième, ce qui est loin d'être négligeable. Parce qu'il y a quand même de fait, d'habitude au niveau des élections, au deuxième tour, il y a toujours plus de votants. Hein, mais là, il faut dire que ça ressemble un peu à l'élection de 69, d'ailleurs, il y a eu des comparaisons qui ont été faites, où il y avait le Poher contre...
Pompidou,
voilà.
J'y étais.
Et le PC, à cette époque-là, d'ailleurs, avait sorti le fameux slogan blanc-bonnet et bonnet-blanc, on vote pas, abstention. Et voilà, donc là, ce n'est pas le cas, c'est moins qu'on puisse dire. Puisque personne n'a osé sortir ce slogan pour cette fois-ci. Pourtant, il y a quand même des aspects qui nous feraient penser à ça.
Oui, et puis il pouvait éventuellement y avoir un espoir, mais c'était alors se projeter dans quelque chose qu'on ne connaissait pas. c'était d'essayer de faire un phénomène d'abstention le plus massif possible en lui donnant une coloration politique et en refusant de légitimer cette élection, quoi. Puisque d'après les chiffres que l'on a et notre réflexion, on a quand même un président de la République qui est très 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 mal élu. Et le scrutin majoritaire à deux tours, il trouve là encore une fois ses limites, puisque on a une personne qui a été au second tour qui a à peine 5 députés, 4, 3, 3, et quelqu'un qui représente près de 22% de la population des suffrages exprimés au premier tour qui n'a aucune représentation, quoi. Et on voit que...
Tu parles de Le Pen, Le Pen, non, ouais. À 10.
10 députés, tant
oui,
que ça. On les entend tellement pas.
Ah, voilà, c'est
que...
ça. Ils sont pas connus, mais.
Que tu vois, j'étais persuadé qu'ils étaient moins nombreux. De l'autre. Deux. Collard réel.
Oui, il y a 10 députés si on ajoute des députés au Parlement européen.
Ok, d'accord. Ouais, ok. Oui, il y avait que elle et Collard. De toute façon, on les entend pas non plus. Mais voilà. Et on a un paradoxe, c'est-à-dire que le système politique français tel qu'il est construit, il concentre des pouvoirs énormes entre les mains d'un individu ou d'une individu. Et on voit à quel point sa légitimité, ou en tous les cas l'incarnation de ce qu'il peut représenter dans le pays ou dans la société qui l'élit, est vraiment hyper, hyper fragile. Mais je te laisse reprendre la parole, parce qu'il y a des comportements... l'abstention, d'ailleurs, on peut le dire, elle est extrêmement différenciée. Hein. On s'abstient plus si on est jeune, c'est-à-dire qu'on a moins de 25 ans. On s'abstient beaucoup plus si on est ouvrier, ou en tous les cas si on appartient à une catégorie populaire ou à une classe laborieuse, et, ou alors on vote Le Pen. Et évidemment, on vote beaucoup plus si on a du fric et si on est vieux, d'abord parce qu'on a le temps, et en plus parce qu'on y a vraiment des intérêts lorsqu'on a des programmes qui proposent la réduction des impôts de succession, la réduction sur la fortune immobilière ou sur les dividendes. Effectivement, il faut avoir un patrimoine et avoir une projection sur la gestion de ce patrimoine pour pouvoir évidemment s'y intéresser, quoi. Oui. Alors, il y a des comportements électoraux qui ont été hyper bizarres, étranges, en tous les cas, qui mériteraient d'être étudiés de plus près. Bon, d'une part, il y a la Corse qui s'est massivement abstenue à plus de 50% en moyenne, jusqu'à 60 voire 70% dans certaines parties de la Haute-Corse. Et puis il y a les territoires et les départements d'outre-mer qui ont conjugué deux phénomènes. Le premier, une abstention aussi extrêmement importante, et un vote massif pour le renouveau national. Pour donner un exemple, la Guadeloupe a voté à plus de 69% pour le renouveau national. Alors évidemment, quand on a des abstentions qui sont aussi massives, de l'ordre de 50 ou de 60%, les phénomènes majoritaires, ils sont hyper concentrés. Hein, c'est aussi de la mathématique. Ça ne veut pas dire que tout le monde en Guadeloupe supporte les idées de Marine Le Pen, mais ça veut dire que les gens qui vont se déplacer sont très énervés et décident de poser...
Bah, de toute façon, tous ces gens-là, comme beaucoup d'autres, étaient tout sauf Macron. Pour ceux qui, par exemple, la Guadeloupe, la Martinique, ce qui a été important pour eux, c'est ce qui s'est passé au niveau de la santé et au niveau du fait qu'aujourd'hui, il y a encore des milliers de gens qui sont sanctionnés pour avoir refusé le vaccin. Et qui fait que maintenant, ça a foutu en l'air, ça a foutu en colère la population de Guadeloupe et de Martinique, qui fait que c'était tout sauf Macron. Alors, certains se sont abstenus, beaucoup se sont abstenus. D'autres ont voté Macron, ont voté Le Pen. Ça, c'était un peu inévitable quand on n'est pas politisé.
En tous les cas, c'était aussi, quelque part, un vote dit tabou, en tous les cas, qui signifiait clairement une défiance. Par rapport au système. Mais alors justement, c'est intéressant parce que on a quand même aussi des questionnements à avoir par rapport à ce que représente aujourd'hui l'acte de voter, puisque c'est la troisième élection où au second tour on se retrouve à faire des cas. Les électeurs sont invités à faire castor, à faire barrage. Finalement, celui qui est élu reçoit assez peu d'adhésion massive à son projet, ouais, par rapport à son programme. Et résultat, l'acte de vote, qui est normalement un acte sacré, ou en tous les cas un acte super important dans le système de la démocratie représentative...
Oui. Oui, pas pour nous.
Oui, par rapport à nous, mais là, on est vraiment dans le rituel. Ouais. C'est ce qui fait la différence entre le citoyen et le non-citoyen. Hein. Rappelez que, normalement, dans la République, le citoyen accepte de confier une part de sa souveraineté et donc de subir et d'obéir aux lois en échange de sa consultation régulière et de son pouvoir décisionnaire à l'intérieur de représentants, par l'intermédiaire de représentants, pardon, qui sont censés incarner les différentes options. Et que ces options, elles sont normalement incarnées dans des partis politiques qui sont censés, par leur maillage social, par l'animation de la société, défendre à la fois des courants d'opinion dans la société, des pratiques dans la société, mais aussi des espaces ou des groupes sociaux à l'intérieur de la société. Et là, depuis effectivement 2002 et effectivement depuis 5 ans, on a vraiment un délitement, une disparition quasi totale de ce que peut représenter un vote et de ce que ça peut signifier. Alors, il n'est pas étonnant que quelqu'un qui a peu ou pas de culture politique ou qui n'a pas été au contact de parents qui, eux, avaient une culture politique ou se trouvent dans un espace ou dans un entourage où il y a une culture politique, ne voit aucun intérêt à donner son avis, quoi. Donc là aussi, c'est vraiment assez interrogeant, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je continue, hein, moi que tu veuilles.
Vas-y, simplement pour dire que dans cette élection, en fait, il n'y avait pas trois blocs comme ça a été dit, mais il y avait quatre blocs. Le bloc dont tu parles actuellement,
de l'abstention,
ça représente 28% tout de même, plus tu peux ajouter les blancs et les nuls. Hein.
Bon, t'es à 30, ouais. 3 millions de votes blancs et nuls, voilà. Pratiquement 8,60%, un électeur sur 10 qui se déplace pour dire merde.
Ouais, et c'est ce qu'ils disent déjà, des fois.
En général.
Il y a le bloc, y a le bloc Mélenchon,
ouais, 22,
qui a dirons-nous, foutu la merde à gauche, et il a liquidé, on peut dire, le PS et puis les écolos à peu de choses. On verra si ils arrivent à faire en sorte que ça se reproduise. C'est pas du tout évident, puisque au niveau des élections prochaines et des législatives, faut-il le rappeler, il y a beaucoup de gens qui se font élire sur leur tête, hein. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont connus, c'est des gens qui ont une certaine audience localement, qui font que ils peuvent se retrouver députés avec l'étiquette PS ou même des fois minoritaire, mais ça existe encore, l'étiquette PC. Mais voilà, donc et puis il y a le troisième bloc, c'est Macron qui a effectivement le pouvoir.
Le quatrième.
Et puis le quatrième, c'est l'extrême droite. C'est alors ça fout le moral en l'air pour beaucoup de gens parce que ça représente quand même 41% d'accord, mais si on regarde les votants, si on regarde pas que les votants, si on regarde la population, ça représente 13 millions de gens qui ont voté pour la maire Le Pen sur 48 millions. C'est-à-dire que je ne sais pas combien ça fait au niveau pourcentage.
27%.
Donc il y a 27% de gens qui adhèrent au moins sur le papier, au moins une fois, aux idées d'extrême droite.
Alors, à l'intérieur de ce groupe-là, il doit forcément y avoir des gens qui sont racistes, des gens qui sont nationalistes, des gens qui sont énervés. Mais on s'aperçoit que lorsqu'on interroge les électeurs, est-ce qu'on leur demande « est-ce que vous êtes d'accord avec le programme ?», la plupart du temps, ils ne lisent pas. Et le caractère crédible d'un programme ou pas, puisqu'il y a vraiment n'importe quoi dans ce programme, il y a vraiment mais n'importe quoi en termes de de capacité politique, des gens qui sont dans la politique institutionnelle depuis plus de 25 ans, c'est vraiment nullissime, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des contradictions énormes sur les propositions qui sont avancées, il y a des impossibilités de mettre en œuvre des directions, etc. Ce qu'on voit, c'est que il y a deux choses qui rentrent en avant. C'est un, faire chier le monde, clairement, envoyer un truc anti-système. Alors, pour quelqu'un qui est né à Montretout, qui hérite du parti de son père et qui est dans la politique depuis près de 25 ans, évidemment, ça fait sourire, quoi. Et puis, de l'autre, la préférence nationale, mis en, aujourd'hui, ça a changé, ils appellent ça la priorité nationale. Qui laisserait à penser que le problème vient du bouc émissaire étranger et que c'est bien connu, quand on est migrant en France, on dispose d'un appartement, le gaz, l'électricité, un café l'addition et évidemment les pantoufles en plus, quoi. Bon, alors ça, ce sont des mythes hein, qui font partie de la société et qui fondamentalement ne sont pas combattus ni explicités de manière j'allais oublier l'insécurité, mais en plus la plupart du temps
oui, la partie adverse, c'est-à-dire dans ce cas-là, c'est Macron, mais aussi quasiment tous les autres au premier tour, à part Mélenchon, n'ont rien trop dit sur l'exclusion des immigrés au niveau des allocations familiales, etc.
Le débat de l'entre-deux-tours, le président en place n'a même pas abordé le sujet. En face de sa concurrente, il a même pas parlé de cette préférence nationale. Il a même pas, alors on ne demande pas d'être un héros antiraciste, mais quand même c'est un fondement de son programme. Et lui, en tant que représentant normalement de la République, entre guillemets, c'est des choses sur lesquelles il devait se mobiliser. Mais ça avait commencé bien avant, cette banalisation et cette normalisation, puisque d'une part, on a eu un personnage qui a été fabriqué. Hein. Vous savez que son problème, c'est qu'elle élève les chats et qu'elle habite avec sa colocatrice, hein, puisqu'elle est une colocatrice. Ça me fait penser à des vannes pas très drôles, mais oui bien sûr, elle a une colocatrice, oui. À partir du moment où vous avez l'intégralité du champ politique, hormis Mélenchon, on va croire qu'on l'aime bien ici, mais quand même des fois donner des bons points aux gens qui vont se rendre à une manifestation de flics devant l'Assemblée nationale, qui critiquent et qui veulent mettre la pression sur la justice et sur l'Assemblée nationale, bon, bah, y a plus rien à faire, quoi. Hein, ça déroule. Et puis, d'autre part, il y avait cet individu Zemmour qui permettait, lui, de faire le sale boulot. Voilà. Et donc, du coup, d'adoucir les angles. Mais la suite, elle risque d'être effectivement assez craignose.
Très chaude, j'espère. Ouais. J'espère. Au niveau social, je parle.
D'un côté, il y a des gens qui vont être super énervés qui ne sont pas représentés. De l'autre, il va y avoir des enjeux sociaux super forts et il va falloir mettre une pression maximale pour pouvoir essayer de garder la tête hors de l'eau. Espérons que cette mobilisation, elle sera marquée par la joie, la colère et pas par le désespoir
et la
tristesse et la haine. Parce que malheureusement, si la vengeance de classe, ça peut être intéressant, c'est difficile quand même de construire des choses positives là-dessus. Et puis d'autre part, on a un président, alors c'est assez incroyable de voir quand même ça. Bon, nous on n'est pas politologues, hein, mais on a des yeux et des oreilles pour entendre, même si elles ne marchent pas tout le temps bien. Je sais quoi de cause. Il y avait à peine 5000 personnes au Champ de Mars.
On parle de 3000.
On parle de 3000.
Ouais,
d'accord. 3000. C'est ridicule. Le discours a duré à peine un quart d'heure. Alors qu'il y avait quand même des enjeux. Puis c'est beaucoup plus facile de se la péter dans des grands débats ou dans des conférences de presse, apparemment, que de faire des discours qui rassemblent la nation, donc un quart d'heure. Et on a eu des enfilages de perles, mais sur lequel on pouvait lire entre les lignes Et quand on voyait la symbolique qui était représentée, bon, l'appel à une union nationale, à un rassemblement, ça comme d'habitude. Et puis en face de lui, une belle brochette de Raffarin, Achevènement, en passant par Guigou, par Darmanin, par Olivier Véran, par Marisol Touraine.
Et puis Valls,
qui était là aussi, qui était venu gratter à la porte, voir s'il y avait quelque chose. Mais alors là, c'est quand même inquiétant, parce que à l'intérieur de cet appel aux bonnes volontés à venir faire la politique du prochain quinquennat, la question qu'on peut se poser, c'est derrière ce qu'on pourrait penser être une sorte de parti unique, en fait. C'est quoi, en fait, l'opposition au macronisme ? Comment, dans une démocratie où on est censé régler la conflictualité par le dialogue, par l'opposition des points de vue, comment est-ce qu'on peut s'opposer ? Et en fait, on voit que ça découle d'un univers mental, hein, d'un univers idéologique qui est celui de la classe de Macron, c'est-à-dire ces espèces d'élitocrates, de technocrates, évidemment friqués, qui sont incapables de penser qu'ils ont tort, qui pensent, et on leur a dit qu'ils étaient supérieurement intelligents, et que le peuple, en fait, il est juste là pour suivre. Et c'est pour ça qu'il est perçu avec un mépris de classe, avec cette arrogance qui lui est, semble-t-il, si naturelle. C'est que pour lui, en fait, on n'est pas au niveau et qu'on ne comprend pas. Et que le problème de la France, c'est que, et de l'État français, c'est qu'elle ne met pas les bonnes personnes au bon endroit, quoi. Et donc, dans sa stratégie machiavélique d'aspirer ici à gauche, là à droite, de faire cette espèce de parti unique en allant chercher des vieilles, même pas gloire, parce que franchement, Chevènement, Guigou et Raffarin, ça donne pas vraiment envie, quoi, hein, pour l'ampleur des défis auxquels on va être confronté, à savoir une inflation qui va continuer à augmenter, notamment sur les secteurs de l'énergie, des problèmes en termes de souveraineté alimentaire. On parlait de la Réunion et des dom-tom tout à l'heure, mais on commence à avoir des pénuries d'huile. Et évidemment, des soucis au niveau du réchauffement et des dérèglements climatiques. Face à ça, si on n'a pas quelqu'un qui est capable d'avoir un esprit critique et d'avancer en pensant et en écoutant, ça risque d'aller au clash. Donc, l'hypothèse, c'est que s'il reste enfermé dans son délire, et il y a vraiment, à mon avis, un moment à poser la question de la stabilité mentale, ça va se tendre au niveau autoritaire, quoi. Et dans un pays où 60 à 80% des forces de l'ordre ont des options partisanes et des options électorales à l'extrême droite,
ça risque d'être très dur. Ouais,
donc, à nous de
l'autre côté, ouais. Moi je pense que ce qui est important, c'est est-ce qu'il va dans la société française. Est-ce qu'il va y avoir des luttes ? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont se mobiliser ? Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Et alors, bon, la réponse du pouvoir, je ne pense pas qu'il faille qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, hein, qu'ils vont faire la même chose que les 5 dernières années. C'est-à-dire que là, ils vont certainement nous donner
des miettes.
Des miettes, du style, au niveau de la démocratie, hein, du style, s'il y a 100 000 personnes qui font un texte qui se mettent d'accord pour un texte de loi, il sera examiné.
Pourra créer une commission.
Pour c'est ça.
Voilà.
C'est ça, parce que bon, pour les référendums, ils ne peuvent pas les faire, les référendums surtout, et ils le savent bien. Et puis en plus, il faudrait déjà changer beaucoup de choses pour que les référendums soit vraiment un truc pour gouverner, quoi. Donc, on va voir. Comme je pense que les flics, comme tu l'as dit, n'ont pas changé.
On parle de l'éventualité d'un chèque alimentaire, selon le système des primes. Hein, vous passez voir mamie pour qu'elle vous fasse un chèque. Ça donne quand même aussi la nature de la relation que ces gens en vis-à-vis de leur administré, quoi. De temps en temps, on fait un chèque, alors qu'évidemment, la question du salariat et de la revalidation de ces salaires, elle est jamais, jamais discutée. Peut-être qu'il y aura quelque chose au niveau du RSA, étant donné que c'est une population qui souffre et dont les objectifs quotidiens sont assez réduits. C'est-à-dire comment faire pour survivre, quoi.
Alors comment ils vont faire pour justement les faire bosser 20 heures par semaine?
Bah, c'est pas possible pour l'intégralité des 2,5 millions de bénéficiaires du RSA, mais ne serait-ce que si il y a 100 000 à 150 000 personnes qui bossent, ça crée une destruction d'emplois et ça crée une concurrence terrible par rapport aux travailleurs, on va dire, normaux entre guillemets. Donc là, c'est ça. Il va y avoir la question du nucléaire. Avec certainement des luttes de sites importants, puisqu'on voit pas très bien où ils pourraient poser ces merdes, mais il est évident que les gens du coin vont pas forcément être d'accord. Cette question des retraites, il va peut-être y avoir des espèces d'organes qui vont être fabriqués pour tenter d'associer les citoyens à la décision publique, mais on a bien vu ce que ça donnait par rapport à la Convention citoyenne sur le climat, où pendant une dizaine de mois, 150 personnes avaient travaillé. Ils avaient proposé une centaine de choses. Et en plus, il y avait des choses plus qu'intéressantes à l'intérieur. Hein. On voit que quand on se politise et quand on prend le temps de se politiser et d'avoir recours à des points de vue, on peut produire des choses intéressantes, voire anticapitalistes pour certaines. Ça a été balayé d'un revers de main puisque rien n'a été repris, quoi. Prochain rendez-vous dans la rue le 1er mai, ça va déjà être le premier test. On va voir de quoi les gens vont parler dans les manifestations et combien de personnes il y aura, il y aura, quoi. Espérons que ce printemps sera chaud, quoi. C'est tout ce qu'on peut souhaiter.
Tout à fait.
On s'écoute de la musique. Ah, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Nous on sera dans la rue le 1er mai. Peut-être qu'on aura une expression. Il est évident qu'il y aura certainement quelques politicards qui auront leur expression. Mais bon, on verra. Peut-être qu'il y aura des moments à l'issue de ces 1er mai de discussion collective. C'est un dimanche, donc ça va être un peu compliqué techniquement. Mais bon, ça sera aussi l'occasion pour certains de ressortir après cette longue période bizarre de confinement où on n'a pas eu beaucoup l'occasion de se reparler. Je pense aussi que certains groupes politiques vont devoir se faire discrets, puisqu'ils vont certainement avoir quelques justifications, voire explications à fournir.
Je pense que tu penses à qui tu penses.
Je pense aux membres du PCF et aux membres d'Europe Écologie Les Verts, qui ne sont pas forcément, des habitués des défilés syndicaux et des défilés du 1er mai, c'est rare, bon, même si parfois il y en a. Mais je pense notamment aux membres du PCF, où je pense que dans certains cortèges, ça va être compliqué de tenir la ligne et le drapeau. Je pense qu'il va falloir faire preuve d'humilité et de discrétion, notamment au niveau des signes extérieurs d'appartenance, quoi. Mais bon, on verra bien tout ça lundi prochain. On aura l'occasion de vous en reparler et de faire un bilan de tout ça.
politiciens n'ont pas de tort. Écocentrique et tactique, placé en lieu stratégique, bien à l'abri du peuple et des coups de trick. Tous les coups sont permis sous l'immunité diplomatique. La police, un ramassis de connards gangrénés par le pouvoir. En plus haut, je poche les mots, mais je n'ai pas le pitch. T'as la Yuko, oh non, j'enchaîne des gaines, la haine au bout des veines. Mes lyrics sont rois, tu passes au moins deux sud-américaines. Le one pour la top, le deux pour les keufs. Tant pour l'autre bord que l'on va retirer comme un bœuf. Mais le pen, la pine, le pen, la pine humaine, draine sa merde. Prêche autour de nous, un retour aux valeurs de la reine. Attaquant avec de l'étendard, le blanc, rouge, trois couleurs pour la vision de cauchemar. Dingue, dès que le système en dingue, mais je préfère me tracer. Chargeons mon flingue, check ça. Fusil boîté sur ma tête, mes propres doigts sur la gâche. Je trouve qu'il par le combat, on finit par se faire sauter la tête. La plus de vos nouvelles élections, de nouvelles têtes de groupe constamment gangrenées par le pouvoir.
Constamment gangrenées par le pouvoir. Le pouvoir. Constamment gangrenées par le pouvoir.
Comme moi, comme les domaines, j'ai une culture.
La marche, j'ai pris la page. On s'est mis par les rênes du système dans la cage, réduit à l'esclavage. Pas fait pour l'élevage, j'ai passé l'âge. Comme poussé par le vice, le système glisse sur les pentes grolies. C'est laisse la populace qui pourrait casser la matrice. Ses ennemis se fait 10-1. La France, noblesse de merde sur une culture rance. Ferme les yeux, on te donne la cadence. Car, condamné par le pouvoir, ton esprit aime l'argent, ton esprit aime l'espoir. Toi, encore une fois, tu dois suivre la loi. Fais de toi un homme de loi, un homme occupé à l'état. Plus de passe-passe, ton destin est une phrase. Si tu sors, si tu dérailles, te casse. C'est pas des années jusqu'à ce que tu crèves dans la base. Tes rêves resteront à jamais condamnés par le pouvoir.
Révolution soudanaise. Commencée en décembre 2018, la révolution au Soudan aura permis en quelques mois la chute d'Omar al-Béchir, au pouvoir depuis 1989. Animée par une contestation populaire massive, la révolution vise depuis la mise en place d'un gouvernement civil. Après l'élection au poste de Premier ministre d'Abdallah Hamdok pour mener la transition démocratique, la pression des militaires s'est accentuée jusqu'à un coup d'État le 25 octobre 2021. Pourtant, la résistance s'organise, notamment au sein de comités très actifs depuis le début de la révolution, il y a plus de 3 ans. Le 20 mars dernier, au cinéma L'Univers, l'association Mi-Trajectoire organisait avec des membres de la diaspora soudanaise une journée de conférences pour documenter, expliquer, analyser la transformation radicale de la société soudanaise. Parmi les intervenants et intervenantes, Ahmad Jamal, étudiant à Sciences Po Paris, cofondateur du blog d'actualité soudanaise adressé aux francophones, Sudfa. Il répond à l'intitulé de cette journée, « Où en est la révolution ?»
La révolution soudanaise, elle est dans un moment qui est très, 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 très difficile. Et depuis le 25 octobre, on a rentré dans une nouvelle phase de la révolution où les militaires ils ont pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Mais le peuple soudanais a continué à... Et d'ailleurs, voilà, la résistance a continué jusqu'à nos jours. Il y a quasiment des manifestations au moins deux fois par semaine. Il y a du blocage d'autoroutes, notamment la route principale entre l'Égypte et le Soudan. Il y a des obéissances civiles, il y a des grèves et il y a une grande contestation en fait de la part de la société civile. Donc voilà, où nous sommes aujourd'hui, voilà, on est encore dans une démarche révolutionnaire, mais avec beaucoup d'outils, avec beaucoup de moyens, avec des stratégies révolutionnaires créatives.
La révolution a commencé en 2018, elle a permis la chute du régime d'Omar el-Bashir, mais cette révolution-là, c'est beaucoup plus qu'une simple révolution politique, c'est un renversement total de l'organisation sociale. Est-ce qu'on peut dire que la révolution soudanaise, c'est une révolution totale ?
C'est tout à fait, on peut dire que c'est une révolution totale, parce que c'est une révolution qui a pu... mettre tout en question, celle de question voilà, sociale, culturelle, politique, économique. Bah, du coup, les Soudanais aujourd'hui, ils sont trop sur les questions d'identité pour savoir qui ils sont exactement aujourd'hui. Ils sont trop en fait sur la place des femmes voilà, dans la société soudanaise. Ils sont trop voilà, sur le rapport entre le Soudanais, entre eux et entre voilà, le groupe, disons, dominant et le groupe dominé. Du coup, voilà, on pose des questions à tout niveau, pas simplement voilà, au niveau politique où les gens insistent aujourd'hui sur le fait d'appliquer un modèle d'État laïque, démocratique, et aussi voilà, un modèle économique en fait, qui n'est pas un modèle néolibéral, capitalisme, etc., mais un modèle économique pour le tout qui est basé sur le partage de richesses entre tout le peuple soudanais avec ou de manière égalitaire. Donc voilà, il y a assez conscience aujourd'hui chez le Soudanais et à par rapport de questions économiques, sociaux, politiques, etc.
Ces éléments d'une conscience sociale très forte, partage des richesses notamment, ce que tu as évoqué, ils viennent d'où ?
C'est vient de l'expérience en fait qu'on a vécu et comme on a vécu pendant 30 ans dans du malheur, dans des difficultés économiques, politiques. En fait, juste à travers une observation, on a pu en fait identifier quel modèle de politique en fait qui peut dommager un peuple et quel modèle de politique en fait qui peut servir un peuple. Et comme on a eu un modèle économique, capitalisme, mais avec un couverture qui est plutôt islamique, ce qu'on appelle voilà, l'islam ou l'économie islamique, c'est le problème vient d'ici. Du coup, aujourd'hui, on demande n'importe quoi. Quel de Soudanais, il va répondre par dire qu'en fait, la seule solution pour les problèmes politiques du pays, c'est de donner le pouvoir au peuple pour qu'il décide en fait qui est capable en fait de diriger ce pays. Et si on demande voilà, sur les questions économiques, ils vont dire qu'en fait, le système capitalisme dans lequel on a vu que pendant 30 ans, là, c'est pas un système qui ne marche pas du tout en fait pour la société soudanaise. Donc, il faut absolument remplacer un système par un autre système. Aussi, voilà, si on troche sur le rapport entre les gens, et ils vont dire qu'en voilà, en fait, on a connu une période où il y a quelqu'un qui se sent supérieur de l'autre, où il y a quelqu'un qui se sent en fait naturellement qu'il est plus de droit dans ce pays que l'autre. Du coup, le modèle qu'on doit appliquer aujourd'hui, c'est le modèle d'égalité en fait sociale, où tout le monde pour sentir en fait qu'il est dans son pays avec un statut égalitaire avec les autres.
Depuis bientôt 4 ans, il y a des manifestations, des mobilisations, des contestations de très très grande ampleur au Soudan. Comment parvenir à maintenir un tel niveau de mobilisation du peuple ?
Parce que les gens ils sont partis avec des idées ou d'objectifs assez précis en fait. Sauf qu'on n'a pas encore pu atteindre tous les objectifs. Et du coup, aujourd'hui, il insiste sur le fait d'aller jusqu'au bout en fait. Et le fait de revenir à l'arrière sera le mort. Parce que si les militaires arrivent à prendre tout le pouvoir au pays, et ben là, ils vont commencer un nouveau série, en fait, de répression dans les pays. Ils vont, en fait, contrôler tout. Ils vont essayer, voilà, de pousser, en fait, tous les Soudanais à l'extérieur. Donc, en fait, voilà, ça, c'est une démarche qu'on essaye de le faire pour que les militaires, ils n'arrivent pas à contrôler tout le pouvoir. Et comme on a fait un grand pas, voilà, vers la victoire, où notamment on a pu faire du bouleversement, en fait, social, du changement, en fait, global au sein de la communauté soudanaise. Du coup, je pense qu'il ne reste qu'un petit pas, c'est le fait de dégager les militaires au niveau, voilà, du pouvoir. Après, je pense que ce sera le jour où on annoncera le grand victoire.
La révolution soudanaise, c'est une révolution par la base. Il est souvent dit que c'est une révolution où prime l'autogestion. Comment ça s'organise concrètement, cette autogestion ?
Eh ben, c'est une des créativités, en fait, politique dont je parlais tout à l'heure, en fait. Et pour qu'on comprenne mieux, en fait, il faut revenir, voilà, en 2019, quand les Soudanais, voilà, ils ont commencé leur révolution, mais plutôt avec l'organisation, en fait, qui vient d'en haut vers le bas. C'est-à-dire, voilà, de par des syndicats, partis politiques, ils décident, et puis on pousse, en fait, leur programme aux manifestants. Sauf qu'en fait, cette méthode, ça n'a pas du tout marché. Et on a compris très vite, en fait, que le problème, parce que c'est un pouvoir, ou c'est en fait les mêmes stratégies de pouvoir qui étaient faites par l'ancien régime, sauf qu'en fait, cette fois, par des gens qui disent qu'ils sont opposants, en fait. Du coup, voilà. On essayait de reformuler, en fait, les stratégies de manifestation, et notamment cette fois, en fait, de partir de bas vers haut. Donc voilà, à ce moment-là, les Soudanais ont commencé à réfléchir, en fait, comment on peut faire participer tout le monde, en fait, dans cette démarche révolutionnaire. Du coup, c'est fini par inventer ce qu'on appelle le comité de résistance. Il s'agit, voilà, de petits comités dans chaque quartier où les gens, en fait, quel que soit leur âge, quel que soit leur statut social, quel que soit leur rapport avec politique, quel que soit, voilà, leur idée ou leur idéologie, en fait, ils se retrouvent dans un espace, soit une école, soit une clinique, soit une mosquée, pour réfléchir et pour discuter, en fait, à la fois sur le problème de leur quartier et à la fois, en fait, pour le problème des pays entiers et comment on peut, en fait, collaborer avec les autres pour qu'on puisse, voilà, mener une action politique radicale ensemble avec les autres comités.
Les femmes ont joué un rôle de premier plan dans la révolution au Soudan. Extrait choisi de l'intervention de Nada sur le sujet.
Donc moi, je vais parler du rôle des femmes soudanaises dans la révolution. Et pour parler de ça, j'aimerais bien revenir dans l'histoire et l'évolution du rôle de femmes soudanaises dans la société. Donc oui, je vais parler d'abord de l'aspect politique et économique, l'évolution de femmes dans l'aspect politique et économique. En 1954, la femme a obtenu le droit de voter. Et dans 1965, donc, il a eu le droit d'être élu pour l'élection présidentielle. La première élue du Parlement au Soudan, il s'appelle Fatima. Fatima Ahmed Ibrahim.
Et
donc les femmes aussi ont le même droit au niveau du salaire par rapport aux hommes. Donc c'est égal à depuis 1971. Donc je vais parler de la situation des femmes et surtout dans la période de Omar al-Bashir, donc l'ancien gouvernement de 1989. Donc en 1989, il y avait aussi, après le gouvernement islamiste de Omar al-Bashir, il y avait la loi d'ordre public qui en fait opprime les femmes. Ils n'ont pas le droit, ils ont même par rapport à des habits, comment ils s'habillent. Ici, ils sont en dehors, en train de marcher avec quelqu'un voilà, qui n'est pas de ses familles. Voilà, il est toujours... donc, il risque d'être interpellé. Donc, il y a l'histoire de Lubna. C'est une journaliste soudanaise qui a écrit après un livre qui s'appelle... le pantalon de Lubna, parce qu'il était arrêté parce qu'il s'habillait en pantalon, donc il a mis un pantalon dans la rue. Et le pire, c'est pas juste le fait d'arrêter les femmes dans la rue parce qu'ils s'habillent comme ça, mais c'est aussi d'être frappé devant tout le monde et au public en fait à cause de ça. Il y a aussi d'autres problèmes quand le gouvernement de Omar al-Bashir islamiste est venu. C'est aussi de virer tous les salariés ou les fonctionnaires qui travaillent au gouvernement qui ne soutiennent pas le gouvernement. Il y a aussi le problème de guerre et de déplacement. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient déplacés, qui ont perdu leur travail dans plusieurs régions au Soudan. Et donc les femmes ont travaillé dans le travail qui n'est pas organisé, donc qui, entre guillemets, qui n'est pas légal. Et donc ils étaient toujours cherchés par l'État ou la force publique. Sachez, ils prennent leur affaire et comme on voit sur les photos, les femmes qui travaillent, comme on dit au Soudan, les femmes dotées. Mais aussi, il y a un autre problème aussi, c'est le problème de harcèlement sexuel et viol. Donc, le viol au Soudan, c'est surtout, il y a deux cas, soit pendant la guerre, donc il y a la guerre. Et deuxième chose aussi, c'est les militantes. Aussi soudanaises qui ont subi ça, et c'est pour en fait les arrêter de continuer et de les casser, voilà, casser leur ambition et de leur résistance. Donc on n'a pas des statistiques précises pour parler du nombre des femmes qui étaient violées au Soudan, mais il y a un cas d'une soudanaise qui est là, il s'appelle Safiya, qui est en France, à Paris en ce moment. Il a le statut de réfugié politique. Et donc, dans le cas où l'exemple de Safiya, qui était violée parce qu'elle est militante, et quand il est sorti de prison, donc il a parlé de ça, donc ils n'étaient pas acceptés parmi sa famille, donc ils étaient rejetés. C'est pour ça qu'il a quitté même le pays, il est venu ici en France. Il a fait la demande d'asile. Donc les femmes, ils sortent toujours pour manifester. Et surtout, avant 2018, il y avait des manifestations où il y avait que des femmes qui sortent, nombreuses, ensemble, pour en fait revendiquer leurs droits et aussi pour aussi la liberté, revendiquer la liberté de leurs enfants qui sont dans le prison. Quand la révolution soudanaise a commencé de 2018 en décembre, il y a des statistiques qui montrent qu'il y a 60% des manifestants, ils étaient des femmes. Donc, ils n'étaient pas juste 60% des femmes qui sont sorties, mais il y avait aussi des rôles très importants pendant les manifestations. Donc, ils étaient, ils étaient aussi un guide, ils étaient donc, ils guidaient aussi les manifestations. Ils n'étaient pas juste un nombre important, mais ils avaient leur rôle très important aussi dans les manifestations. Donc, en 2019, il y avait aussi un rôle très important des femmes. Ils font un bruit, je ne sais pas comment on explique, un bruit particulier, et ça annonce le début de manifestation. Les manifestations commencent après ces bruits. On appelle ça Zagrota. Donc, le Zagrota, c'est un symbole de joie, donc on l'utilise dans les mariages, dans les fêtes. Mais pendant la révolution, il était aussi un symbole pour la libération du pays et aussi pour un commencement de manifestation. Donc les femmes aussi avaient des femmes âgées, ils avaient aussi un rôle très important. C'est pas juste leur présence pendant les manifestations, mais aussi ils travaillaient chez elles. Ils faisaient par exemple comme les manifestations en fait durent très longtemps, parfois de matin jusqu'au soir. Donc ils préparent des choses de la nourriture par exemple, ou de donner de la nourriture ou de l'eau, donc il y avait d'autres rôles aussi chez elle pour aider les manifestants de continuer leur manifestation. Donc ils gardent aussi la sécurité dans les quartiers quand il y a des forces militaires qui entrent par exemple dans les quartiers, donc elles gardent, ils savent en fait ils sont où, donc ils essayent de donner les infos pour tous les autres manifestants. Et aussi, parfois aussi, de cacher certains manifestants chez elles quand il y a des problèmes ou quand ils pensent qu'il y a des forces militaires qui rentraient pour arrêter les manifestants au quartier. Donc aussi, ils avaient un rôle très important pendant le sit-in, c'est de montrer la diversité et les cultures différentes dans l'interculturalité qu'on a au Soudan.
في دور برضو اللي كان فيه النساء هنالك فورم داخل فيسبوك في الفيسبوك اسمه منبرشات.
Et donc il y avait un autre rôle aussi très important. Il y avait une page sur Facebook qui s'appelle Monbarishat. Avant la révolution soudanaise, il avait d'autres rôles. Il y avait que des femmes en fait. Il y avait que des femmes sur cette page. Mais après, ça devient une page pour la sécurité, donc il montre en fait le rôle, ça devient quand il y a la force politique, les agents de sécurité qui se cachent, qui ne montrent pas leur visage, donc il essaie de capturer, de prendre des photos pour ces personnes et après de donner leur identité et de le partager avec tout le monde. Comme ça, il y aura une stigmatisation sociale. Et ces personnes ne peuvent pas être... Il y a plein d'états, des personnes qui ont fui, qui sont allées dans d'autres villes, parce que c'est honteux en fait, parce que toute la société commence à poigner sur ces personnes, ou ça devient en fait comme une stigmatisation sociale. Et donc les conséquences de participation aussi dramatiques, donc les conséquences dramatiques de participation des femmes dans la révolution, il y avait des arrestations au début de 2019, comme c'est noté, il y a 600 femmes qui étaient arrêtées, et aussi le frappe, le torture. Et donc il y avait le viol et le harcèlement sexuel, et le but en fait de faire ça, c'est de casser leur ambition et de faire peur même leur famille, comme ça ils vont pas, leur famille vont les empêcher de sortir et de participer dans les manifestations.
Il y a 12 femmes qui étaient tuées pendant les manifestations. Donc, dans les manifestations, il y a toujours des gens qui sont en front. Donc, quand il y a des forces militaires ou agents de sécurité qui arrivent, il y a des gens qui sont en front, qui essayent de laisser les manifestants derrière, de continuer leur marche. Donc, il y a des femmes qui ont essayé d'être, parce que comme il a mentionné aussi que le Soudan, c'est un pays patriarcal, comme la plupart d'autres pays. Donc, ils ont refusé de laisser, même les militants ou les manifestants, ils ont refusé de laisser les femmes participer avec les personnes qui sont au front. Mais finalement, ils ont résisté, les femmes, ils ont continué à participer. Au final, donc il y avait ces photos qui montrent comment ils étaient au front et participaient pour aider les autres et pour laisser les manifestants continuer dans leur marche. Donc après la révolution soudanaise et le chute du gouvernement de Omar al-Bashir, il y avait le document constitutionnel qui était signé par le... parce que comme il y avait un gouvernement de transition de civils et de militaires pour avoir en fait pour les femmes 40% de femmes de participation au conseil, mais en fait finalement ils n'étaient pas mis en place. C'est pour ça que les femmes ont commencé, ils ont sorti pour revendiquer leurs droits normalement qui étaient déjà signés par le gouvernement. Donc le gouvernement révolutionnaire était de révolution, il n'était pas satisfaisant. Ils n'ont pas vraiment appliqué ce qu'ils étaient signés par les révolutionnaires qui étaient d'accord en fait. Après, il y a beaucoup de revendications qui étaient faites par les femmes, comme l'égalité, comme voilà aussi arrêter les personnes qui violent et avoir des lois en fait contre ces personnes. Donc il y a beaucoup beaucoup d'autres revendications que les femmes toujours revendiquent après la révolution soudanaise. Merci beaucoup.
يسقط المجلس العسكري الثورة والثورة والدقدام مدنية
يسقط يسقط حكم العسكر
نادا soudanaise au sujet de la place des femmes dans le processus révolutionnaire dans son pays natal. Merci à Mounir pour la traduction. Ce reportage a été réalisé lors de la journée organisée par l'association Mi-Trajectoire et des membres de la diaspora soudanaise en France, une journée intitulée « Soudan, où en est la révolution ?»
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
À
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Côtes Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.